Et donc, nous allons conclure la journée de l'antenne avec la conférence qui va nous donner Laura Sokolowski, notre collègue de l'École de la cause freudienne, membre de l'AMP, directrice de la revue La cause du désir, et depuis les numéros précédents.
Depuis un an à peu près.
Ah, ouais. Voilà. Et autrice, ou auteur, du livre Freud et les Berlinois. Donc, livre que certains parmi vous ont commencé à lire, et donc qui est la présentation de cette partie de l'histoire de la psychanalyse. À la suite justement de la guerre de 14-18 et l'importance des traumas et de la névrose traumatique et qui avait amené par l'impulsion de Freud à la création de l'Institut de Berlin et aussi à Vienne des centres de psychanalyse, d'accueil des psychanalyses au tout venant gratuit, et c'était aussi des centres de formation de psychanalystes. Et donc nous avons pensé que Laura était tout à fait bienvenue étant donné les thèmes que nous avions choisis cette année. Et en lien avec ce livre, avec ce travail que vous avez fait, et aussi avec l'actualité brûlante, je parle de l'actualité brûlante du problème psychanalyse et psychothérapie. Et donc, Laura Sokolowski nous a proposé, comme thème de la conférence de ce soir, d'aujourd'hui, et psychanalyse versus psychothérapie. Et je vais lire peut-être l'argument, les deux lignes d'argument que vous nous avez envoyées. Et pourquoi Freud refusait-il que la psychanalyse soit assimilée à la psychothérapie et comment ses élèves y réagirent? Ça, c'est une, disons, la partie historique. Et après un rappel historique, certaines conséquences actuelles de cette distension seront abordées. Et avant de vous donner la parole, pour entrer en matière, et j'avais trouvé récemment ces quelques lignes de Freud qu'on peut lire dans une des nouvelles conférences, donc ces nouvelles conférences de 1933 que Freud n'a pas faites parce qu'il avait des difficultés pour parler, mais il imaginait qu'il les faisait, il s'adressait à ce public qu'il imaginait. Et donc dans la conférence 34, à la fin, il dit « Je vous ai dit que la psychanalyse a commencé en tant que thérapie. Cependant, ce n'est pas en tant que thérapie que je voulais la recommander à votre intérêt, mais à cause de son contenu de vérité, à cause des lumières qu'elle nous donne sur ce qui concerne l'homme les plus directement, sur son être et à cause des relations qu'elle découvre entre ses activités, elle, la psychanalyse, entre ses activités les plus diverses. Comme thérapie, elle est une parmi beaucoup, mais tout de même, prima inter pares. Si elle n'avait pas sa valeur thérapeutique, elle n'aurait pas été découverte au contact des malades et ne se serait pas développée pendant plus de 30 ans. Voilà. Je vais essayer de fermer celui-là.
Oui, c'est une merveilleuse citation. Je remercie beaucoup de l'avoir apporté ici. Alors, j'ai essayé donc de traiter le thème que je m'étais proposé de vous communiquer. J'ai un peu dévié, donc on va voir ce que ça donne. Comme vous êtes apparemment très fatigué, vous me pardonnerez aussi certains... Bon, voilà, c'est peut-être comme ça qu'il fallait que je fasse. Donc d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à Rouen. Je connais certains d'entre vous, je suis extrêmement heureuse d'être là ce soir. Et donc, effectivement, j'essaierai de vous parler de la distinction établie par Freud entre psychothérapie et psychanalyse. Et mon propos d'aujourd'hui ne vise pas à traiter de façon exhaustive cette question qui est extrêmement complexe. Et ce que je souhaite plutôt, c'est vous donner quelques pistes, n'est-ce pas, qui pourront vous permettre, je l'espère, de prolonger cette réflexion par vous-même, si vous en avez l'envie. Donc j'ai eu envie de remonter aux origines de la découverte freudienne. En 1895, à la fin des études sur l'hystérie, Freud précise les raisons pour lesquelles il a abandonné la psychothérapie. C'est le moment où il ne souhaite plus recourir à la seule méthode cathartique, mise au point par quelqu'un d'autre que lui, par son collègue Joseph Breuer, qui est donc le co-auteur des études sur l'hystérie. La méthode cathartique consistait à agir sur un symptôme hystérique par le biais de la suggestion hypnotique afin de supprimer ce symptôme. Le dernier chapitre rédigé par Freud dans ses études sur l'hystérie s'intitule justement « Sur la psychothérapie de l'hystérie ». C'est quelque chose de merveilleux à lire. Je l'ai relu encore cet après-midi et vraiment, j'adore ce passage. Il y a des vignettes cliniques qui sont tout à fait savoureuses, extraordinaires à commenter. Et donc Freud y précise comment agit ce procédé psychothérapeutique pour supprimer l'action d'une première représentation non abréagie en permettant la liquidation de l'affect concomitant. Pour autant, c'est très frappant, Freud ne s'attache pas seulement à cette libération de l'affect, il s'intéresse à son expression verbale, qui est associé donc au souvenir pathogène. Et bien Lacan évoqua à Bruxelles en 1977 ce qui se passe quand l'hystérique se met à parler sans savoir ce qu'elle dit. Je cite Lacan. L'inconscient s'origine du fait que l'hystérique ne sait pas ce qu'elle dit quand elle dit bel et bien quelque chose par les mots qui lui manquent. L'inconscient est un sédiment de langage. Cette intervention de Lacan à Bruxelles a été publiée dans le quarto numéro 2, il y a bien longtemps. Elle date du 26 février 1977 et elle a été republiée dans un autre numéro de quarto plus récent, en juillet 2007, le numéro 90. Lacan fait valoir la séparation entre ce qui relève de la comprenette et l'inconscient comme fait de langage. L'hystérique dit quelque chose avec les mots qui lui manquent. C'est ce manque que Freud aperçoit quand il relève qu'il y a des trous dans le récit de l'hystérique. Le début du cas d'Aura revient très exactement et très précisément sur cette question. Par conséquent, Lacan identifie d'abord l'inconscient avec ce trou dans la parole. et Freud aussi. Ce trou se signale à l'occasion par un « ben je ne sais pas, j'ai oublié ». Lacan ajoute, toujours dans cette même intervention à Bruxelles, que c'est curieux un symptôme hystérique, puisque le fait de blablater produit un effet. Oui, c'est curieux, c'est même stupéfiant. Quand Freud mentionnait la disparition des symptômes d'Anna O, il a fait part de sa surprise de la façon suivante. Ma stupéfaction a été immense, et ce n'est qu'après toute une série de liquidations spontanées que je pus tirer une technique thérapeutique. Cette citation se trouve dans les études sur l'hystérie, la vieille édition que j'utilise, qui date de 1985, page 35, non, j'ai dû me tromper, c'est pas, ça doit être 135, excusez-moi. Bon, en tout cas, c'est dans cette édition et à la fin. Il expliquait toutefois qu'en appliquant la méthode thérapeutique de Joseph Breuer, fondée sur la reviviscence du souvenir sous hypnose et la réaction de l'affect associée au souvenir déplaisant, il s'était heurté, lui, Freud, à deux difficultés de taille. Le premier problème que Freud avait rencontré avec l'hypnose, c'est qu'il y avait des hystériques qui n'étaient pas hypnotisables. Pas tout hystérique n'est donc sensible à la suggestion. Alors, il avait fallu trouver un autre accès aux symptômes que celui qui s'obtenait par le biais d'hypnose. Ceci, je trouve très intéressant, car, depuis quelques années, la vieille hypnose se présente comme une thérapeutique à la mode. Je me souviens d'une dame qui était venue me voir et qui s'était persuadée qu'avec l'hypnose, elle aurait enfin la réponse à sa question. Pourquoi devait-elle se méfier de sa passion amoureuse pour des hommes qui faisaient d'elle absolument ce qu'ils voulaient ? Cela avait-il un lien avec quelque chose de traumatique survenu dans son enfance ? Alors elle m'avait longtemps parlé des films de Hitchcock qui montrent cela très bien. Donc elle avait cette idée-là à l'esprit. Alors, comme ça coinçait et qu'elle n'arrivait pas à retrouver ce traumatisme ni ce souvenir pathogène, elle avait pris rendez-vous avec un médecin hypnotiseur et revint me voir absolument affolée, car ce praticien l'avait littéralement envoûtée par son charme et sa beauté. Elle y pensait jour et nuit, c'était un enfer. De plus, la séance d'hypnose n'avait rien donné. Aucun souvenir n'était, disait-elle, remonté à la surface. Bref, la catharsis hypnotique paraissait très mal engagée et nous avons convenu qu'il faudrait faire avec le supposé manque de souvenirs. Ce n'était pas une patiente hystérique. Le second problème rencontré par Freud était la spécificité de l'hystérie par rapport aux autres névroses, notamment la névrose obsessionnelle. Freud considère qu'il y a fréquemment des névroses mixtes et que les formes pures d'hystérie sont assez rares. Il y a souvent un mélange d'hystérie et d'obsession avec des traits qui relèvent de ce qu'il appelle alors la névrose d'angoisse, c'est-à-dire la phobie. Alors, si la thérapie de suggestion ne fonctionne qu'avec la forme pure d'hystérie, un changement de méthode s'impose, sous peine de renoncer au traitement de toutes ces formes mixtes, qui sont les plus nombreuses. Cependant, il y a un point qui est encore plus décisif. Freud fait valoir que la méthode par suggestion n'agit pas sur la cause déterminante de l'hystérie. Elle n'empêche pas que de nouveaux symptômes remplacent ceux qui ont été écartés. Freud distingue dès lors la méthode thérapeutique qui agit sur les symptômes pour les supprimer, et la méthode qu'il désigne comme causale, laquelle tente de cerner la cause à l'origine de la formation des symptômes. À cette époque, Freud ne cherche pas à opposer thérapie cathartique et thérapie causale, mais il signale tout de même que la seconde est prophylactique, car elle empêche la formation de nouveaux symptômes. Est-ce que je parle trop vite ? Je peux ralentir sinon, ça va ? Freud compare alors la situation où le moi se trouve submergé par l'apparition de nouveaux symptômes. Il la compare à la maladie infectieuse. C'est tout à fait d'actualité pour nous. Une fois que la période d'incubation est passée, le déroulement de la maladie ne peut plus être contenu. Et le médecin se trouve contraint de suivre l'évolution de la maladie en aidant son patient à souffrir le moins possible. La maladie ne peut alors que suivre son cours. Le parallèle avec l'hystérie est le suivant, je cite Freud. Si l'on tentait pendant ces périodes de fortes poussées de supprimer les productions pathologiques, les symptômes hystériques récemment apparus, il faudrait s'attendre à les voir bientôt remplacés par d'autres. Le médecin aura alors l'impression pénible d'accomplir une tâche semblable à celle des Danaïdes. Le mythe des Danaïdes appartient à la mythologie grecque. Égyptos et Danaos étaient des frères. Ils se marièrent, pas entre eux, mais ils se marièrent chacun de leur côté. Égyptos eut 50 fils et Danaos eut 50 filles. Il arriva un jour que ses deux frères se disputèrent. Danaos s'enfuit avec ses filles dans la péninsule grecque. Les fils d'Égyptos les rejoignirent et voulurent épouser leur cousine. Danaos ne fut pas d'accord, mais il fit mine d'accepter. Il demanda à ses filles de tuer leur mari pendant la nuit de noces. 49 filles acceptèrent, sauf une, Hypermnestre. Les filles de Danaos furent envoyées aux enfers afin d'y être jugées, et les dieux les condamnèrent à remplir sans fin un tonneau percé. Ce châtiment des Danaïdes était donc sans fin, et la seule qui refusa d'obéir au désir de son père, échappa à ce destin funeste. Freud se réfère au mythe des Danaïdes pour désigner la tâche absurde et sans fin d'une thérapie symptomatique qui laisse de côté la dimension de la cause. Le parallèle avec les TCC me semble assez évident, lesquels prétendent ne pas s'intéresser à la supposée boîte noire que serait l'inconscient, zone qu'il situe quelque part dans le cerveau. Ces TCC, identifient en fait l'inconscient à un réceptacle obscur. Pour en revenir à ce symbole du tonneau percé, nous pourrions dire qu'il s'agit là du tonneau de la fuite du sens. L'appel éperdu au sens est une maladie. C'est la raison pour laquelle, loin de guérir, le sens qui fuit rend malade, alors que le hors-sens assèche le sens. Ce tonneau percé a fait l'objet d'un développement très précis de Jacques-Alain Miller dans la deuxième leçon de son cours du 29 novembre 1995. secours, c'est la fuite du sens. Je cite ici Jacques-Alain Miller. La description classique des Danaïdes. Plus on met du sens, et on ne peut pas en mettre sans discontinuer, et plus ça file, plus ça échappe au tonneau qui devrait le contenir. Fin de citation. Le tonneau destiné à enfermer le sens est percé, et le sens glisse sans cesse ailleurs. Par ailleurs, dans la troisième, que Lacan prononça à Rome en 1974, celui-ci a donné une définition précise du symptôme. Je cite ici Lacan. J'appelle symptôme ce qui vient du réel. Ça se présente comme un petit poisson dont le bec vorace ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent. L'équivoque, le jeu de mots qui comporte l'abolition du sens, permet de resserrer et non pas de nourrir le symptôme avec du sens. Ce qui se resserre, c'est le nœud borroméen à trois, hérésie, où le sens se situe à l'intersection entre le symbolique et l'imaginaire. Le symptôme est au point de fuite du réel et du symbolique, mais il n'est pas inclus entièrement dans le champ du sens. Le resserrage du nœud du symptôme est l'inverse de son nourrissage avec du sens. Il faut faire maigrir le petit poisson. Freud remarque que l'emploi de la méthode cathartique au moment où le moi se trouve submergé est un tonneau des Danaïdes. Cela n'a pas de fin. C'est vraiment sans espoir. Quand il s'agit d'une grave névrose hystérique, la suppression des symptômes par suggestion ne fonctionne pas. En vérité, explique Freud, tout le monde se trouve mécontent. Le patient, car sitôt qu'un symptôme est supprimé, un autre apparaît. Le thérapeute, qui s'épuise. L'entourage du patient, qui constate que cela ne s'arrange vraiment pas. Cette description par Freud de l'impuissance psychothérapeutique sur le symptôme est assez comique. Et l'on a l'idée, en le lisant, en tout cas c'est mon idée, qu'il a eu cette expérience, que cela ne provient pas de son imagination. Tout le monde est de plus en plus épuisé et énervé. Une telle chose, ça ne s'invente pas. Mais Freud s'avance ici avec prudence. Il suppose que l'action curative par la suggestion peut quand même éviter à quelqu'un de sombrer dans une totale démence. Mais enfin, quand il s'agit d'une hystérie chronique moins spectaculaire que celle d'Anna O, quand les symptômes sont plus modérés mais constants, la méthode cathartique ne fonctionne pas. Il faut une thérapeutique qui agit sur la cause et non pas simplement qui vise la suppression symptomatique. Évidemment, je rappelle que nous sommes en 1895, mais le pas que Freud franchit est considérable. L'invention de la psychanalyse est liée à la recherche de la cause, laquelle sera pour Freud la cause sexuelle. Un autre point intéressant relevé par Freud à cette époque est l'influence du médecin, la personne du médecin, dans la méthode symptomatique. C'est le fait que le patient a confiance en lui qui produit une action suggestive. Je cite Freud. Il semble même que cette influence exercée par le médecin soit la condition même du problème. Autrement dit, Freud a déjà le soupçon que le transfert sera la clé du problème. Et donc, il explique qu'il a réussi à se passer de l'hypnose. Je ne vais pas vous lire tout ce long passage, mais seulement cet extrait. Quant à la première entrevue, je demandais à mes malades s'ils se souvenaient de ce qui avait d'abord provoqué le symptôme considéré. Les uns prétendaient n'en rien savoir. Les autres me rapportaient un fait dont le souvenir, disaient-ils, était vague et auquel ils ne pouvaient rien ajouter. Si Freud ne recourt plus à la suggestion hypnotique, il se montre encore à cette époque encore insistant, en affirmant que ce souvenir n'a pas été oublié. Je devenais alors plus pressant encore et j'invitais les malades à s'allonger, à fermer volontairement les yeux et à se concentrer. C'est ce moment où il fait allonger ses patients sur le divan sans recourir à l'hypnose. Et ce qu'il découvre alors, comme vous le savez, c'est qu'il y a une résistance à vaincre. Une force s'oppose à la remémoration du souvenir pathogène. Et Freud a cette idée de génie que c'est cette même force qui est responsable de la formation du symptôme. La force qui refoule est identique à celle qui a produit le symptôme. Pourquoi ? Freud découvre qu'à chaque fois, le souvenir pathogène est pénible, qu'à celui-ci s'attache un affect de honte, des remords, de la souffrance morale. Tout cela suggère l'idée d'une réaction de défense, poursuit-il. Par conséquent, il a l'idée que l'ignorance dans l'hystérie est un refus de savoir. Il relève toutefois que l'insistance a quand même des limites, car au bout d'un moment, le fil associatif s'interrompt. Alors, il dit au patient qu'il va exercer une petite pression sur son front et qu'à ce moment, une image va surgir dans son esprit. C'est un reliquat, n'est-ce pas, de la suggestion, même si le point crucial est la demande qu'il adresse au patient de dire tout ce qui lui passe par la tête, même si cela semble n'avoir aucun rapport avec le souvenir recherché, même si c'est très déplaisant à dire. Le « dites-moi tout » est lié à la notion que la volonté du patient, autrement dit le « moi », la relation imaginaire, fait obstacle. Freud le reconnaît. Le fait d'exercer une pression sur la tête ne sert en fait qu'à distraire la volonté. Ce n'est qu'un artifice technique. Si cette question vous passionne, alors il faut vous reporter au deuxième chapitre d'un livre merveilleux de Serge Côté, regretté Serge Côté, qui s'appelle « Freud et le désir du psychanalyste », où Serge Côté donc, reprend exactement ce moment où Freud utilise cet artifice technique. Je vous y renvoie. Alors, je n'irai pas plus loin dans cette petite relecture de la fin des études sur l'hystérie, qui nous a replongé dans les prémices vibrantes de la découverte de la méthode causale fondée sur la libre association, dans sa différence avec la psychothérapie basée sur la suggestion. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à la bifurcation initiale, originale, entre psychanalyse et psychothérapie. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est la place du savoir dans la méthode causale. Freud mise sur le fait que le patient sait quelque chose qu'il ne dit pas et que ce qui est thérapeutique ici, c'est un savoir. Il s'agit d'un savoir insu, méconnu, oublié, refusé. C'est donc le patient qui sait et non pas le thérapeute. C'est lui qui est sujet supposé savoir. Ce savoir refoulé. L'inconscient est ainsi un savoir sur la jouissance. C'est un savoir barré. Ici, je fais un saut important, puisque je me reporte au conseil que Freud adressa aux médecins en 1912. Je cite Freud. Pratiquement, il est vrai que l'on ne saurait s'opposer à ce qu'un psychothérapeute combine une certaine dose d'analyse à quelques traitements par suggestion dans le but d'obtenir plus rapidement un résultat thérapeutique patent, comme par exemple dans les maisons de santé. Mais alors, ce praticien doit se rendre compte lui-même de ce qu'il fait et ne pas confondre sa méthode avec une psychanalyse véritable. Il est difficile d'être plus clair. 6 ans plus tard, vous l'avez évoqué, au cours d'un congrès de psychanalyse, Freud revint sur l'usage de la suggestion. Il invitait alors à créer des centres psychanalytiques pour traiter gratuitement les individus touchés par les traumatismes de guerre. Nous sommes donc en septembre 1918, 2 mois avant la signature de l'armistice. La guerre n'est pas terminée. C'est le célèbre passage suivant de sa communication sur les voies nouvelles de la thérapeutique analytique. Je cite de nouveau Freud. Tout porte à croire que, vu l'application massive de notre thérapeutique, nous serons obligés de mêler à l'or pur de l'analyse une quantité considérable du cuivre de la suggestion directe. Parfois même, nous devrons, comme dans le traitement des névroses de guerre, faire usage de l'influence hypnotique. J'ignore pourquoi une ancienne traduction française mentionnait le plomb plutôt que le cuivre, car dans la version originale allemande, il s'agit bien de cuivre. Le cuivre, c'était un alliage que l'on mélangeait à de l'or pour fondre les monnaies en Europe jusqu'à la moitié du XIXe siècle. La métaphore de Freud était ainsi monétaire et non pas alchimique, comme le passage du plomb à l'or pourrait le laisser supposer. La suggestion, qui n'est pas l'or pur de l'analyse, se rapporte en fait à ce qui s'était pratiqué durant la guerre de 1914-18, lorsque les élèves de Freud furent appelés sous les drapeaux. Médecins psychiatres dans des services de santé militaire, ils eurent recours à des méthodes qui s'inspiraient de la psychanalyse qu'ils pratiquaient dans le traitement des névroses de guerre. Parmi ces élèves, il y avait quelqu'un qu'on ne connaît plus très bien, mais qui a beaucoup compté, qui s'appelait Ernst Simmel, S-I-2-M-E-L. Il a beaucoup compté dans le mouvement analytique de l'époque. Il fut un des créateurs de l'Institut de Berlin. Mais il fut aussi le premier à diriger un établissement hospitalier psychanalytique, la clinique du Schloss Tegel, située aux environs de Berlin. Je ne rentrerai pas ce soir dans le détail qui concerne ce service, cet hôpital psychanalytique, mais si cela vous intéresse, j'en parle dans mon ouvrage, et il y a un extrait, enfin une étude que j'ai rédigée qui est accessible en ligne sur Kern. Simmel considérait que les traumatismes de guerre avaient des affinités avec la mélancolie. L'agressivité adressée à l'ennemi se retournait sur le sujet. C'est quelque chose d'intéressant, car c'est aussi la façon dont Freud a considéré les névroses de guerre. Pour lui, en effet, il ne s'agissait pas toujours d'hystérie, même si les symptômes paraissaient les mêmes, tels que des tremblements et des paralysies. Mais quelque chose, Freud s'en aperçut, ne cadrait pas avec le modèle de l'étiologie sexuelle de la névrose, notamment la présence d'une intense tristesse. Freud eut le soupçon qu'il s'agissait d'une affection narcissique et non pas d'un conflit issu du refoulement de la pulsion sexuelle. Nous en trouvons des échos directs dans son texte sur l'au-delà du principe du plaisir de 1920, qui commence par la question des traumas de guerre et la répétition du déplaisir dans le rêve. La conceptualisation de la pulsion de mort dérive directement de la réflexion d'après laquelle le rêve du névrosé de guerre répète un déplaisir. Et ceci se trouve en infraction avec la définition du rêve comme réalisation d'un désir. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cauchemar qui réveille, mais de la répétition d'une même scène. La scène où, par exemple, un soldat voit son camarade se faire tuer devant lui. Le rêve a ici la fonction de produire l'angoisse qui avait fait défaut au moment du choc. Eh bien, quand il était médecin aux armées, Simmel, donc qui était vraiment quelqu'un qui était très proche de Freud, avait utilisé une méthode qui avait mêlé l'interprétation psychanalytique et la suggestion afin d'obtenir des résultats thérapeutiques rapides auprès des soldats traumatisés. Il écrivit un ouvrage qui intéressa les autorités militaires de l'époque, et ce fut ce champ de recherche qui motiva de façon très pragmatique les analystes freudiens à organiser un congrès de psychanalyse sur le thème des névroses de guerre. Les autorités, l'État, enfin, s'intéressent à la psychanalyse, et les médecins qui étaient hostiles à la psychanalyse, les psychiatres, finissent par se dire « ils ont des résultats ». Donc ça vaut peut-être la peine de les écouter. C'est pour ça qu'à ce congrès de Budapest, j'ai insisté beaucoup là-dessus dans mes recherches, il y avait non seulement des psychanalystes qui étaient présents à Budapest, à ce 5e congrès, mais aussi des médecins militaires qui s'étaient déplacés, qui n'étaient pas du tout des psychanalystes, mais qui se sont dit « là, il y a quelque chose de nouveau ». Et probablement de thérapeutiquement efficace. C'est un peu d'histoire qui nous permet de saisir pourquoi, lors de ce congrès de septembre 1918, Freud mentionna le mélange de l'or pur, de l'analyse et du cuivre de la suggestion dans des centres psychanalytiques gratuits à venir. Ce projet s'inspirait donc directement de l'expérience de la guerre. 2 ans plus tard, une première institution psychanalytique fut créée en 1920 à Berlin. Et si l'on ne connaît pas ce contexte, il est tout à fait possible de faire des contresens importants en posant par exemple que Freud avait changé d'avis relativement à la distinction entre psychanalyse et psychothérapie. Par ce discours sur les voies nouvelles de la thérapeutique analytique que Freud prononça lors de ce congrès de 1918, il s'agissait non seulement d'élargir les conditions d'accès au traitement analytique en rendant ceci gratuit, mais aussi d'augmenter significativement et numériquement le nombre de psychanalystes. Ainsi, la question de la formation était aussi devenue une priorité. Or, c'est là que le bât blesse. Le souhait de rendre accessible la psychanalyse à toutes les couches de la société ne s'était pas accompagné d'une ouverture équivalente au niveau de l'accès à la formation de psychanalystes. Il y eut, quelque temps plus tard, au milieu des années 20, une très importante polémique dont on n'a plus trop l'idée, qui concernait l'analyse pratiquée par des personnes qui n'étaient pas médecins, ceux que Freud nomme les profanes, les laïcs, la Laienanalyse. Devait-on ou non réserver l'accès à la formation analytique à ceux qui n'avaient pas de formation médicale préalable ? L'acmé de cette polémique se produisit au congrès d'Innsbruck de 1927. Freud estima que sa défense de l'analyse profane n'avait été qu'un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que toute une partie du mouvement analytique allait rester campée dans ses positions en n'admettant pas des non-médecins à la formation analytique. Il s'agissait du problème du recouvrement de la psychanalyse par la thérapeutique, qui avait failli conduire à la scission du mouvement analytique. Freud était prêt à démissionner de l'IPA, de l'Association internationale de psychanalyse, s'il n'était pas entendu. imaginer un peu ce que ça pouvait être que Freud démissionnant de l'association internationale. Pour le dire un peu rapidement, il y avait aux États-Unis donc une société analytique assez importante qui refusait cette possibilité à des non-analystes de devenir à des non-médecins de devenir psychanalystes, alors qu'en Europe, notamment à Vienne et un peu à Berlin, on continuait évidemment de se dire des non-analystes, des non-médecins, s'ils sont analysés, peuvent devenir analystes. Des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs, s'ils sont analysés, s'ils font l'expérience de l'inconscient, peuvent devenir analystes. Alors qu'aux États-Unis, voilà, il y avait une position aussi des médecins qui étaient un peu plus fragiles et des enquêtes et des procès ont lieu qui étaient quand même, qui rendaient les choses assez compliquées. Alors, Freud demandait donc, est-ce qu'une formation médicale offrirait plus de garanties que celle donc d'un travailleur social, d'un psychologue? Il dut mettre tout le poids de son autorité dans la balance pour que la formation didactique soit encore accessible aux non-médecins sur le continent européen. Il s'agit d'un épisode qui peut-être, avec le recul, peut nous paraître anecdotique. Et c'est pourquoi il vaut tout de même la peine de se replonger dans ce qui avait risqué de faire imploser le mouvement analytique international. Car c'est la préservation de la psychanalyse comme discours qui était en jeu. Que celle-ci ne soit pas incluse dans le champ des psychothérapies. Une psychothérapie parmi d'autres. J'ai retrouvé un passage que j'aime beaucoup, donc dans la question de l'analyse profane. En effet, nous n'estimons pas du tout souhaitable que la psychanalyse soit absorbée par la médecine et trouve sa sédimentation ultime dans un traité de psychiatrie au chapitre thérapeutique, à côté de procédés tels que la suggestion hypnotique, l'autosuggestion, la persuasion, qui, puisés aux sources de notre ignorance, doivent leur effet à court terme à l'inertie et à la lâcheté des masses. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Voilà, je revenais juste un petit peu sur cette affaire de la psychanalyse profane, l'origine de l'ouvrage de l'écrit de Freud, qui en fait est lié à une urgence, car en juillet 1926 à Vienne, un psychanalyste qui n'était pas médecin, Theodor Reich, fut accusé, une de ses patientes porta plainte, et donc Reich fut accusé d'exercice illégal de la médecine. À l'automne de la même année, 1926, une loi fut aussi votée dans l'État de New York qui interdisait la pratique de la psychanalyse aux non-médecins. Donc, les médecins nord-américains étaient même appelés à ne plus travailler avec des psychanalystes. La société américaine avait décidé de ne plus admettre dans son cursus de formation des candidats qui n'étaient pas médecins. La société de psychanalyse à Vienne les admettait. L'Institut psychanalytique de Berlin fut déchiré entre partisans du tout médical et ceux qui pensaient qu'il fallait autoriser des exceptions. Certains voulaient gagner leur lettre de noblesse, leur respectabilité auprès du corps médical. L'une des questions brûlantes de l'époque était celle du diagnostic. Un psychiatre était-il le seul à pouvoir l'établir? Qui d'autre qu'un médecin pourrait indiquer que la psychanalyse serait le traitement adéquat? Qui d'autre qu'un médecin saurait faire la différence entre un symptôme d'origine somatique et un symptôme d'origine psychique? À ceci, Freud répondit point par point dans sa défense de l'analyse profane. J'indique aussi au passage que la psychanalyse d'enfant fut au départ présentée comme la voie la plus propice pour des femmes qui désiraient être psychanalystes et qui n'étaient pas médecins, telle la propre fille de Freud, Anna Freud, et Mélanie Klein. Tant et si bien qu'un éclatement du mouvement analytique dans son ensemble menaçait, et les débats qui agitèrent pendant plusieurs années les sociétés de l'Association internationale, déchirées entre la tendance européenne en faveur des non-médecins et l'américaine qui s'y opposait, aboutit au renforcement du rôle de l'institution psychanalytique comme étant la seule garante de l'information du psychanalyste. Lacan a fait valoir que Freud se méfiait du désir de guérir. Cela renvoie à ce que Freud expliquait de sa propre trajectoire. Passionné par la recherche, il avait choisi une carrière médicale par défaut, car il était pauvre, et il ne gagnerait pas suffisamment de quoi faire vivre sa famille en restant chercheur. Il avançait aussi qu'enfant, il n'avait eu aucune disposition à jouer au petit docteur et que son sadisme n'était pas assez développé pour avoir le désir de soigner l'autre, effet d'une formation réactionnelle. Ainsi, Freud n'hésitait pas à soutenir que c'était son manque de vocation pour la carrière médicale qui l'avait rendu peu perméable à la satisfaction de produire des effets thérapeutiques chez ses patients. En vérité, bien sûr, l'application thérapeutique de la psychanalyse fut première. Freud l'expliquait encore au début des années 30. Elle s'était développée bien au-delà, sans avoir abandonné son sol natal. Pour son approfondissement et son développement ultérieur, elle serait d'ailleurs toujours liée aux relations avec ceux qui souffrent. Dans l'histoire de la psychanalyse, une logique est venue répartir les applications non thérapeutiques et thérapeutiques de la psychanalyse. Les applications non thérapeutiques se sont développées pour lutter contre l'écrasement de la psychanalyse par la médecine. C'est ce que nous appelons, nous, les connexions. Connexion théâtre, connexion cinéma, connexion littérature. Et ce sont les applications dites thérapeutiques qui ont permis la diffusion du discours psychanalytique dans la civilisation. Très dernièrement, tout dernièrement, la semaine dernière, Jacques-Alain Miller a fait valoir que la psychanalyse se supporte du nœud RSI. Sans la dimension du réel, elle a une valeur psychothérapeutique. Le curseur s'est déplacé, car le danger ne provient plus d'une assimilation de la psychanalyse par la psychiatrie, laquelle s'est maintenant résolument tournée vers la biochimie du cerveau et le recours à la suggestion autoritaire des thérapies cognitives et comportementales. Mais il demeure que de temps à autre, comme au début des années 2000, il a été possible de vérifier que la meilleure façon de résister à la psychanalyse et la tentative d'inclure celle-ci dans le champ des psychothérapies. C'est à cela qu'avec Jacques-Alain Miller, nous nous sommes résolument opposés. La psychanalyse n'est pas une technique de guérison. Elle ne promet pas le bonheur. Elle ne vise pas non plus le changement des comportements et la suppression des pensées inadéquates. La psychanalyse ne guérit pas. Elle transforme. Elle modifie la relation aux symptômes. La répétition d'un mode de jouir est la constante dont se soutient le symptôme. L'analyse vise le réel de la rencontre avec la jouissance, événement contingent que Freud avait défini comme traumatisme en écoutant les hystériques blablater. Avec Lacan, nous pouvons le définir comme le trou de l'impossible écriture du rapport sexuel. Et de cela, il n'y a pas de remède, on n'en guérit pas. La psychanalyse ne vise pas la guérison, car rien ne saurait guérir l'être parlant de la faille dans le symbolique. Grand tabaré. Ben, je vous remercie. Voilà.
Non.
Dites-moi si on a un peu encore du temps pour discuter.
Oui, oui. La discussion est ouverte. Les questions qui peuvent venir de la salle sont bienvenues. C'est une proposition forte, non? Dire clairement que... Ah oui. Non, mais si je le fais marcher...
Prenez celui-ci, sinon.
Oui. Oui, c'est pour... pendant que vous préparez vos remarques et questions, deux mots. Dire clairement, fonder, argumenter que la psychanalyse ne vise pas la guérison, c'est quand même une option forte, clarifiante. Et quand on reçoit tout le temps, en tout cas c'est mon cas, mais je pense que beaucoup parmi vous, les dépliants des diverses personnes qui s'installent et qui raconte toutes les choses qui guérissent, ça fait une liste, tous les problèmes de la vie, etc., sont guéris avec les méthodes merveilleuses, hypnose, réflexologie, plantaire, je ne me souviens plus encore combien d'autres MDR, choses.
MDR, oui.
C'est ça, MDR... Et donc, vraiment, c'est vraiment tout à fait d'actualité, cette question.
Il me semble que c'est assez important parce que on a tous en tête la fameuse définition que la psychanalyse guérit de surcroît, mais... Je pense qu'il faut creuser cela, parce qu'on ne peut pas se contenter de répéter ça comme une antienne et une ritournelle. Il faut pouvoir l'expliquer. Je trouvais vraiment, je ne m'y attendais pas. J'adore les études sur l'hystérie. En plus, je ris beaucoup en le lisant. C'est plein d'esprit, c'est extraordinaire. Mais voilà, je trouvais que repartir vraiment à l'origine de ce que j'appelle la bifurcation... entre la psychanalyse et la psychothérapie, à partir de cette distinction que Freud fait très nettement entre la thérapie du symptôme et la thérapie causale, m'a semblé quelque chose d'intéressant, la méthode causale. Hein. Et puis, avoir à l'esprit, là, vous le dites avec humour, mais c'est aussi comme ça qu'on peut l'entendre, que c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que le traitement qui fait appel à la suggestion et au sens et aux explications et à la comprenette fait que ça n'a pas de fin. Et à la fin, effectivement, tout le monde est déçu. Et enfin, on connaît tous ces patients qui vont de thérapeute en thérapeute, de thérapie en thérapie, voire ceux, j'en parle, celle qui fait à la fois une analyse et qui va voir un hypnotiseur, dans l'espoir de trouver enfin la raison qui fait qu'elle est en position d'objet absolu de jouissance dès qu'elle rencontre quelque chose de l'amour. Hein. Mais enfin, on voit ça souvent. Des personnes qui arrivent quasiment en fin de parcours, qui ont à peu près épuisé tout, et puis qui ont cette idée-là que si l'analyse dure trop longtemps, peut-être qu'il y aurait des thérapies plus rapides aussi. Et alors, ça, cette question-là, de l'accélération éventuellement possible des effets thérapeutiques en analyse, c'est quelque chose dont on a discuté, nous aussi, dans le champ freudien. Dans les effets thérapeutiques rapides de la psychanalyse existent, mais comment les situer justement aussi, par rapport à toutes ces thérapies qui promettent effectivement bonheur, guérison, amour, et comme les marabouts, en fait. Hein, voilà. Allez-y, vraiment, on est entre nous.
Je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui nous met droit au cœur de ce qu'on rencontre tous les jours. Et au fond, ce matin, on discutait de la question de la guérison, on disait le texte de Miller, une fantaisie, et au fond, on arrive à ces questions au fond, autour de quelle est la spécificité de la psychanalyse quant aux symptômes. Qu'est-ce que le réel, enfin, toutes ces questions. Alors moi, j'ai lu ton livre, au fond, je l'ai lu comme... je ne pouvais pas le lâcher. C'est vraiment... je l'ai lu comme un parcours, comme un roman sur la psychanalyse. Quelque chose comme ça, au fond. Et par exemple, on a l'idée qu'on fait connaissance. connaissance avec Simmel, avec Ettingen, oui. avec toutes ces personnes qui, au fond, quand même, ont déjà, avant nous, travaillé sur ces questions qui sont fondamentales.
Tout à fait.
Et qui ont déjà mis vraiment au travail toutes ces questions. Alors, ce que tu amènes aujourd'hui, au fond, ça permet de lire le livre en ayant comme axe l'essentiel et de la position de Freud par rapport à toutes ces innovations qu'il a, au fond, encouragées, mais toujours avec, en mettant une orientation très précise. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un point très important. Voilà. Et donc ce matin, il y a eu un cours de Eric Guillot sur l'homme au loup, et je faisais valoir, au fond, ce que tu dis dans ton livre sur le sacrifice, la concession et céder ou consentir. Et au fond, ce que tu dis, page 232 de ton livre, sur la position de Freud par rapport à l'Institut de Berlin au moment de la montée du nazisme. Et comment, au fond, il a bien marqué qu'il ne s'agissait pas de faire des concessions. Voilà. Et au fond, je crois que ça rejoint vraiment l'orientation que tu donnes là aujourd'hui à ta conférence. Il y a des points sur lesquels il ne faut pas céder dans notre orientation. Par exemple, Arthur Lacan, je pense que le dit, faisait valoir que l'Académie de médecine à l'heure actuelle a fait un rapport dans lequel elle range la psychanalyse au même titre que la méditation.
Oui, c'est ça, exactement
voilà.
ça.
Donc, au fond, ces questions-là reviennent.
Tout le temps.
Voilà, comme sous de nouvelles formes. Et ça, c'est important d'avoir le fondement de la question de la cause qui est visée, d'appeler l'autre, éradiquer les symptômes à tout prix.
Ça reste effectivement, comme tu le soulignes, très actuel. Ça n'a pas pris une ride.
Non.
C'est toujours le même réel qui revient et les questions qui effectivement... Enfin, je peux peut-être vous dire un tout petit mot sur l'origine de la rédaction de cet ouvrage-là dont tu parles, Freud et les Berlinois. Il se trouve que j'ai fait partie de la première équipe du CPCT à Paris, en 2003, je crois, 2004, voilà. Et on avait des réunions avec des collègues émérites, qui pour moi étaient vraiment non pas des sujets supposés savoir, mais des sachants absolus. On citait souvent ce passage où Freud parle du mélange de l'or pur à la suggestion comme étant effectivement ce qui nous permettrait, nous, de fonder un CPCT, de travailler selon des critères qui ne sont pas strictement ceux de la psychanalyse au cabinet. Voilà. Mais ça m'a intriguée parce que je me dis, mais ça ne ressemble pas à Freud, ça, d'avoir dit ça. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il abandonne l'hypnose en 1895. Et puis, en 1918, il dit qu'il faut mélanger la suggestion et la psychanalyse. Ça ne cadre pas avec la représentation que je m'étais faite de la trajectoire de Freud. Donc, c'était énigmatique pour moi, parce qu'on se servait beaucoup de ça pour justifier la création des centres psychanalytiques et tout ça. Donc, je me suis dit, il y a un gap, là. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Et pourquoi est-ce que Freud a voulu, en 1918... promouvoir la création de centres psychanalytiques. D'où ça vient ? C'est tout bête, en fait. Je n'avais pas la réponse et je ne la trouvais nulle part. Voilà. Et donc, j'ai lu des choses étranges, des sociologues comme ça qui expliquaient qu'en fait, Freud était un homme de gauche, qui avait des idées qu'il fallait rendre la psychanalyse gratuite à tout prix. Je me dis, mais non, c'est pas non plus ça. Vienne la Rouge... Berlin des années folles, enfin, c'était complètement fantaisiste et loufoque et ça ne correspondait pas à l'évolution même de la psychanalyse telle que Freud la présente et telle que Lacan l'a relue. Donc il y avait quelque chose que je ne m'expliquais pas et donc c'est pour ça que j'ai commencé à creuser par curiosité parce que c'est un de mes symptômes, d'être assez curieuse et donc je suis remontée à cette affaire de la guerre et à cette chose absolument centrale que vous avez pointée sur le travail des psychanalystes sur les névroses de guerre, sur le traumatisme de guerre. C'est-à-dire l'implication qu'ont pu avoir les psychanalystes dans ce moment, une grande catastrophe quand même, hein, de la Première Guerre mondiale, ce cataclysme qui a fait que donc ils se sont engagés. Ils n'avaient pas le choix. Les psychiatres déjà été appelés sous les drapeaux, donc ils n'avaient pas le choix. C'était des gens comme Karl Abraham, comme Ferenczi, comme Simmel, étaient quand même des gens extrêmement doués et qui avaient des grandes responsabilités au niveau de la psychiatrie d'époque. Hein. Et donc, eh ben, ils ont fait ce qui leur semblait le plus adéquat pour aider des soldats et des traumatisés de guerre. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, on voit aussi les avancées de Freud. C'est-à-dire qu'en 1915, 16, 17, 18, les élèves de Freud ont assimilé, bien évidemment, toutes les théories concernant l'hystérie, les études sur l'hystérie, le cas d'Aura. Ils ont l'idée qu'en fait, toute névrose a une étiologie sexuelle. Ben oui, c'est ce qu'ils avaient appris. Et là, Freud, le premier, il y a une lettre à Ernest Jones où il le dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, il fait un peu semblant de ne pas embêter... Enfin, voilà, au congrès, il n'embête pas ses élèves qui essaient de démontrer, de faire coller les traumas de guerre avec l'étiologie sexuelle. Il ne va pas les démentir, mais il a le soupçon, il a l'idée qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, que dans le traumatisme de guerre, que dans l'étiologie de la névrose de guerre, ce n'est pas une étiologie sexuelle qui est en cause. Voilà. Donc ça, c'est quand même passionnant. C'est passionnant parce que on voit que Freud, il est déjà sur la voie qui va le mener à l'au-delà du principe du plaisir et la découverte de la pulsion de mort. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment une période très charnière, finalement, dans l'histoire de la psychanalyse. Donc, au niveau de la création des centres psychanalytiques dont nous sommes les héritiers quand nous sommes dans un CPCT, la question de la formation des analystes aussi, pour traiter des masses, il faut beaucoup d'analystes. Comment penser aussi cette formation? Comment penser la psychanalyse didactique? Toute la question de la gratuité aussi. Est-ce qu'on peut vraiment, vraiment analyser gratuitement quelqu'un? Alors, tu cites l'homme au loup, voilà quelqu'un qui a... Les analystes de l'époque se sont cotisés à un moment donné parce que l'homme au loup n'avait plus un sou, il avait tout perdu avec la révolution russe, et donc le mouvement analytique a financé finalement, jusqu'à la fin de sa vie, l'homme au loup. Voilà. Et donc, ces questions de la gratuité étaient déjà donc en question à l'Institut de Berlin. Et ils ont fait le choix, dans ce premier centre, la première institution psychanalytique au monde, ils n'ont pas fait le choix de la gratuité intégrale. Ils ont considéré qu'il fallait recevoir, par exemple, en première consultation quelqu'un, évaluer avec lui très très honnêtement si ses moyens étaient suffisants ou pas pour faire une analyse. On était dans l'après-guerre, on était dans un moment où il y avait une crise sociale et financière considérable. Mais il n'était pas exclu qu'un patient qui venait à la polyclinique de Berlin paye des séances. C'était pas exclusif, c'était pas le tout gratuit non plus. Voilà. Donc toutes ces questions-là me semblent très intéressantes et très actuelles. Ça a vraiment, plus je creusais cette affaire-là, plus je me disais ça peut nous aider à réfléchir, pas nous inspirer, mais à réfléchir à des questions qui sont toujours très vives et très actuelles. Voilà. Sur le module, il y aurait des choses extraordinaires à faire. Voilà, il faut inviter Agnès Aflalo. Pardon ?
Tu as déjà écrit un article sur le module ?
J'ai écrit un article sur la désinsertion de le module, parce que c'était Judith Miller qui s'intéressait beaucoup à la question de la précarité et de la désinsertion au moment où on en parlait beaucoup au CPCT. Et au départ, l'homme au loup était un homme très riche. Il venait d'une famille, comme vous le savez, extrêmement fortunée, de l'aristocratie russe. Et donc, une des questions, c'était de se dire, mais comment, finalement, un homme aussi riche, qu'est-ce que ça peut représenter pour lui que le paiement d'une séance? Comment est-ce qu'on crée un peu de manque chez quelqu'un qui est immensément riche. Voilà. Et puis, il y a le tout premier séminaire de Lacan, que Jacques Anna-Miller a publié dans les confins du séminaire. On a des notes du tout premier séminaire que Lacan faisait, je crois, chez lui, et qui concernait l'homme au loup. Et donc, il y a une remarque de Lacan qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'il dit qu'effectivement, l'homme au loup, c'était sa richesse qu'il avait désinsérée. Donc ça va à l'inverse du préjugé qu'on peut avoir que désinsertion égale pauvreté. Bien non. Il était dans sa bulle. Bon, ses symptômes faisaient qu'il était dans son petit monde, dans sa bulle. Mais la richesse dans laquelle il était, son mode de vie, l'avait par ailleurs désinséré. Donc je trouvais ça intéressant. Ça va à l'inverse des représentations qu'on peut avoir de la précarité. Il s'agit bien sûr d'une précarité symbolique et non pas d'une précarité uniquement matérielle.
Voilà. Toujours Lacan qui pense à l'inverse.
Toujours. Mais on voit que Freud aussi. Voilà. C'est peut-être ce qui nous spécifie dans la psychanalyse, c'est de penser à l'envers du discours du maître. Toujours. Voilà.
Bon, évidemment, il y a la Première Guerre mondiale qui fait 4 ans dans l'histoire de la psychanalyse, la plus grande de la peste, la nombreuse guerre. Mais ce que vous décrivez dans votre livre à propos de la montée du fascisme en Allemagne et de l'intervention de la guerre mondiale est tout aussi intéressant. Parce que l'actualité brûlante nous indique quand même qu'il faut des conditions minimum pour que la psychanalyse puisse exercer. Avez-vous une certaine liberté?
Oui.
Une petite question, je ne sais pas si vous l'abordez dans votre ouvrage, je n'ai pas eu le temps de lire ce qui m'intéressait. Justement, après M. Royerlet, sur l'exclusion des psychanalystes, alors de gauche, rouge, communiste, juif, comment j'ai su, notamment en piochant sur un bouquin qui s'appelle L'histoire de la psychanalyse populaire, dans l'histoire populaire de la psychanalyse, que des psychanalystes étaient allés notamment travailler en Catalogne, en Argentine, enfin, pour fuir, parce que c'était l'Europe fasciste, quand même. Et j'ai su par la suite que certains étaient remontés jusqu'à la clinique de la Borde, notamment avec Jean Houry, parce qu'une fois que les fascistes ont gagné en Espagne, bien, encore une fois, avec Reich, et des femmes psychanalystes, et d'autres, je pense, qui en faisaient partie. Notamment, c'était à l'époque aussi du colonialisme. Et donc, dans cette partie, la clinique de la Borde, c'était à Saint, je ne sais plus où c'était, avec Jean Houry, etc. Et on mit en place, enfin, c'était une psychothérapie institutionnelle. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça a fait comme ça des réfugiés psychanalystes dans certains pays. Alors, il y avait la lutte des classes, il y avait évidemment le communisme, toutes les conséquences de la guerre, mais il y a eu des suites et des gens qui ont continué de travailler avec la psychanalyse là où on pouvait encore l'envisager, quoi, dans les années 30.
Oui, tout à fait. C'est très très important ce que vous pointez là. Et il y a un livre absolument extraordinaire. Enfin, moi, j'ai vraiment, m'en suis beaucoup servi, de Jacobi sur Fénichel, Otto Fénichel et les Freudiens de gauche, oui. La gauche freudienne. Alors ça, c'est aussi une histoire tout à fait passionnante, hein, qui est que autour de Fénichel, William Reich, c'était des gens extrêmement engagés en politique. Donc ça pose la question de l'engagement politique du psychanalyste. Voilà, on y est. Faut-il ou pas? Et donc, ce qui est assez intéressant, par exemple, dans la trajectoire d'Otto Fénichel, qui était quelqu'un qui était... Un monstre de savoir concernant la psychanalyse, il avait tout lu de l'époque, enfin, il a fait des ouvrages de synthèse absolument exceptionnels. il était un bon obsessionnel. Il passait son temps à faire des listes et des listes et des listes. Il listait ses femmes, il listait les films qu'il voyait, il listait tout. Mais il était d'une rigueur extraordinaire. Et donc, Fenichel, il est parti aux États-Unis parce qu'en fait, beaucoup de psychanalystes juifs de cette époque-là, non seulement pour leur appartenance aussi au milieu communiste, socialiste de l'époque, et parce qu'ils étaient juifs, sont partis aux États-Unis, en Angleterre, mais beaucoup aux États-Unis. Et même dès les années 30, hein, voilà, avant l'accession de Hitler au pouvoir, certains sont déjà partis. Et donc on voit, alors c'est très très extraordinaire, parce qu'on voit Fenichel, qui évidemment aux États-Unis, il ne peut pas dire « je suis communiste ». Vous imaginez, communiste dans les années... Juif, communiste, psychanalyste, c'est trop, il va se faire lyncher. Donc, il monte un petit groupe un peu clandestin avec ses collègues qui viennent aussi, comme lui, qui ont émigré. Ils mettent au point un système de lettres circulaires qui circulent. Enfin, ils sont pour se faire admettre de leurs collègues psychanalystes américains qui étaient quand même pas si simples, pas si contents de voir... Il y a eu ce moment quand même, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, où les psychanalystes qui étaient là sur place n'ont pas vu d'un très bon œil tous ces collègues qui arrivaient, qui émigraient. Ils allaient leur prendre leurs patients. C'était des gens qui avaient connu Freud de très près, qui étaient auréolés d'un prestige extraordinaire. Donc, il y a eu des frictions quand même, si vous voulez. Ben voilà. Voilà, c'est des histoires d'immigration et de tensions qui se sont alors beaucoup aux États-Unis. Donc ça, vous devriez regarder de ce côté-là parce que c'est absolument passionnant. J'avoue que je connais beaucoup moins ce qui s'est passé en Argentine et en Espagne, qui est aussi absolument fondamental. Je l'ai moins étudié parce que j'ai suivi une trajectoire qui concerne certaines personnalités emblématiques qui venaient donc de Berlin ou de Vienne et qui ont émigré. Mais effectivement, c'est très important et tout à fait passionnant. Voilà. Oui. L'engagement du psychanalyste dans la politique ou pas. Puis il y a eu la fameuse exclusion de William Reich, effectivement, pour des raisons qui sont complexes, qui ne sont pas que parce qu'il était communiste. Il a mis un bazar absolu aussi partout où il passait. Donc, puis c'était une personnalité un peu paranoïaque, un peu difficile. Génial et difficile. Puis à un moment donné, il est devenu quand même... Il a perdu un peu pied, mais... voilà, c'était... c'est très intéressant à voir. Moi, je trouve ça très vivant et très intéressant.
Et Max Aitigone?
Alors, Max Aitigone, alors là, j'ai eu une chance extraordinaire, parce qu'au moment où je faisais... Donc, c'était d'abord une thèse. Hein, le livre est une réduction, en fait, d'une thèse. Au moment où je m'intéressais à l'Institut de Berlin, la correspondance de Freud avec le directeur de l'Institut de Berlin a été traduite en français. Je vous avoue que s'il fallait lire ces 500 pages en allemand, j'aurais eu quelques difficultés. Donc j'ai eu une chance, les étoiles étaient alignées, et j'ai pu donc effectivement m'intéresser à ce personnage qui a quand même été très important, puisque Aitigone, lui, c'était pas comme l'homme au loup, il est resté riche, très longtemps. Et il était très très fortuné, il a été le mécène du mouvement analytique. C'est lui qui a financé l'Institut de Berlin, et quand il est parti après en Palestine, lui il est parti assez tôt d'Allemagne, il a remis en route un nouveau centre, un nouvel institut de psychanalyse en Palestine. Enfin, c'était une personnalité qu'on ne connaît pas très bien, qui n'a pas produit des articles sensationnels, mais qui a été vraiment extrêmement important et qui a eu une place, qui est en rivalité avec Ernest Jones, mais qui était quelqu'un qui avait une certaine éthique, quand même, et qui a fait fonctionner ce centre. Ils étaient quelques-uns à vouloir qu'une institution de psychanalyse existe, en fait. Voilà. Avec son orientation sociale, avec... aussi l'élaboration donc de tout un règlement de fonctionnement, et c'est à Berlin que s'est inventé tous les standards que Lacan après a combattu, de la durée des séances, du nombre de séances, de la durée de la formation, du cursus. Donc ça, c'est aussi très très passionnant à étudier, je trouve, pour savoir d'où on vient aussi.
puisque Lacan, lui, il était en analyse avec Löwenstein, Rudolf Löwenstein, qui venait de Berlin. Donc Lacan, il connaissait ça par cœur. Et vraiment, hein, les instituts de l'IPA, il a commencé là, il avait élaboré d'ailleurs un projet de règlement, et donc Lacan lui-même a connu tous ces psychanalystes qui avaient émigré et qui étaient présents aussi à Paris. Oui.
L'analyse de Tingen, l'analyse ambulatoire, dont tu parles, il se promenait avec Freud.
Il se promène avec Freud. Oui, c'est ça.
En faisant des balades avec Freud.
Voilà. Et puis, en fait, Haitigon était venu voir Freud parce qu'il avait des soucis dans son choix d'objet amoureux. Et il a fini par épouser une femme que Freud détestait. Il est vraiment...
C'est dégueulasse qu'il
y ait Freud. Il ne la supportait pas parce qu'elle détournait la libido de son cher Haitigon, qui lui était utile, qui finançait beaucoup de choses. Et Haitigon, il était un peu double, c'est-à-dire il avait gardé son côté russe. Il vivait dans un hôtel particulier magnifique, il faisait des fêtes fastueuses. Tout ça, c'était de l'argent en moins pour le mouvement analytique. Et Freud détestait. Il se moquait du fait que la femme d'Haitigon était une collectionneuse de chaussures. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille bonne femme, qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir ces 100 paires de chaussures, c'est ridicule. Il ne l'aimait pas. Et Haitigon essayait donc de ménager la chèvre et le chou. Et voilà. Mais ça, c'est un peu anecdotique, mais ça fait aussi partie de l'histoire de la psychanalyse. Voilà, comme les fameux bals masqués à Berlin aussi, où les psychanalystes se déguisaient, où Mélanie Klein se déguisait en Cléopâtre, Simmel en portier de nuit, et tout ce petit monde vivait, dansait, et voilà, on construit le mouvement analytique de l'époque. C'est assez amusant.
C'est très vivant.
Bon. Bon.
On arrête là. Merci beaucoup.
Ça passe à toute vitesse, on pourrait parler des heures.